9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver en ce mois de septembre. C'est la 8e édition, la 8e saison, pardonnez-moi, de l'émission Voix au chapitre. Et le plaisir d'accueillir, pour honorer cette nouvelle édition de rentrée, Patricia Riffel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue de Reims pour rejoindre Beurre FM et particulièrement l'émission Voix au chapitre pour nous présenter Après Calais, Respiration. C'est le titre de votre ouvrage qui est apparu aux éditions La Chambre d'écho. Quand on dit Après Calais, évidemment, on sait à qui l'on pense quand on évoque la ville de Calais. Parler d'eux et parler d'elle, c'est important. C'est ce que vous avez fait dans votre ouvrage, Patricia Riffel. Ils sont des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à quitter leur pays. Ils sont partis à tout prix. C'est à ce prix-là d'ailleurs que des vies ont été perdues en Méditerranée ou ailleurs. Dans ce parcours, non pas de combattants, mais de battants et de battantes, ils ont risqué leur vie pour une vie meilleure en France. Ou aller plus loin d'ailleurs, puisque quand on est à Calais, on veut aller vers l'Angleterre, vous le savez bien, Patricia Riffel. Patricia Riffel, parlez de vous. Vous êtes née à Lyon, vous avez été chargée pendant plusieurs années de mission pour la valorisation du patrimoine culturel. Et vous travaillez aujourd'hui dans le secteur du bâtiment. Mais la construction pour vous, c'est la lecture, c'est l'écriture d'abord, c'est la lecture ensuite. Et vous êtes passionnée de partager des récits, des histoires, avec un grand H, puis des histoires tout court, des histoires de migrants, des histoires d'exil, des histoires d'hommes à qui qu'on a laissé au bord de la route en France, j'entends, parce que eux, les routes, ils en ont traversé, hein, et plus d'une. Donc, dans ce récit, Après Calais, Respiration, c'est un livre qui témoigne de portraits de 12 hommes.
Oui.
Ils sont érythréens, ils sont du Tchad.
Soudanais.
Et vous allez apporter pour eux, bénévolement, comme on dit, toujours dans cet engagement et cette solidarité avec les autres. On est des bénévoles. Vous êtes une bénévole, de l'aide à apporter à une douzaine d'hommes et vous allez leur apprendre le français parce que c'est essentiel pour eux.
Oui.
Alors peut-être, l'introduction est longue, mais elle est nécessaire pour vous présenter, nous dire qu'est-ce qui fait que un jour vous avez décidé, et c'était, ça a duré 2 ans, vous allez nous le dire, vous allez nous l'expliquer, vous avez décidé de donner de votre temps, donc de votre vie, à donner quasiment quotidiennement, à apprendre le français à ces hommes venus de Calais.
Donc cet engagement fait suite à l'annonce de la mise en route du démantèlement de la jungle de Calais, le 24 octobre 2016. Et le gouvernement a pris la décision de répartir les migrants de la jungle de Calais dans nos régions de France. Moi, à cette époque, j'habitais à Pau, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest. Et je ne me suis pas dit « et si je m'engageais ?» En fait, c'est l'évidence qui est venue me chercher. Je me suis dit que je voulais faire pour ces hommes ce que je voudrais qu'on fasse pour moi si je devais partir en exil. Voilà, je me suis engagée auprès d'un groupe de bénévoles. Nous étions 14, encadrés par la mairie d'une petite ville à côté de Pau qui s'appelle Bizanos. Très bien encadrée d'ailleurs. Et mon engagement, c'était surtout accompagner les migrants dans cette attente de demande d'asile. L'attente, ça peut être très dangereux pour la santé, pour l'équilibre des gens. Et voilà, je voulais contribuer en tant qu'être humain à accompagner ces hommes en tant qu'être humain. Donc, pour moi, il ne s'agit pas seulement de donner un toit à ces gens, de leur donner un matelas par terre et de leur donner des rations de nourriture pour qu'ils attendent que l'instruction de leur dossier de demande d'asile soit faite. Il faut quelque part les maintenir en vie. Comme on subvient à nos besoins primaires pour se maintenir en vie, cette évidence qui est venue me chercher, c'était l'instinct primaire de maintenir l'autre en vie. et maintenir l'autre en vie, c'est pas voilà les mettre dans un logement. Ça, c'est éviter quelque part éviter la mort, quoi, en fait. Maintenir l'autre en vie, c'est maintenir la flamme, maintenir la lumière de l'être, maintenir leur dignité et leur fierté. Et nous, notre groupe de bénévoles, nous avons voulu leur enseigner le français pour qu'ils gagnent du temps avant qu'ils suivent les cours de français obligatoires de l'OFI, mais surtout leur enseigner de telle manière qu'on leur permette de reprendre confiance en eux et en la vie.
Alors vous êtes aux côtés de ces hommes. Je veux parler de vous, pas de toute cette équipe de bénévoles qui était avec vous. Vous avez rappelé que vous étiez un groupe, parce que c'est vous qui avez écrit les récits de ces hommes, que vous avez sans doute écrit sur le moment, hein, et puis que c'était en vous, c'était dans des carnets, et puis qu'il a fallu réécrire pour nous transcrire, pour nous donner à comprendre et à lire ces histoires humaines, comme vous le dites, et qui sont d'une très belle écriture, je le dis déjà, et qui sont à la fois avec émotion, voire poésie d'une certaine manière, parce que la dignité dont vous parlez, ben, il faut aussi que, voilà, c'est se tenir droit, c'est, voilà, et puis vous avez des descriptions assez magnifiques, justement, quand il y a des, entre deux ateliers, ou entre, d'apprendre le français, vous allez à la montagne avec eux et puis il faut trouver le sommet, la montagne. Ils sont émerveillés de voir les Pyrénées, puis ils racontent, vous racontez, vous voyez leur émerveillement dans leur visage, alors que quand vous les avez connus au début, ils étaient à la fois courbés, dans une tristesse. Ils ont toujours la violence en eux, de toute façon, la violence du pays, pas que du pays perdu, parce que le pays qu'ils ont quitté, c'était aussi un pays de violence, hein. Voilà, avec des dictatures, avec la torture qui accompagnait le départ et les marques dans leur corps de tout ça. Mmh. Donc vous décrivez, mais vraiment avec précision, sensibilité, toutes ces rencontres avec ces hommes. C'est important aussi de les décrire avant qu'ils vous racontent, parce qu'on reviendra après sur le fait qu'ils racontent leur histoire. On ne raconte pas une histoire aussi facilement que ça, évidemment, quand elle est celle que nous lirons dans le livre.
Oui, c'est vrai que le sujet du livre, on pourrait dire, c'est l'accueil des migrants. Mais qu'est-ce que ça veut dire accueillir ? Et les migrants, j'ai voulu les dissocier. On parle des migrants comme une énorme masse, un volume de poussière, un volume de corps, de bras, de jambes. Et j'ai vraiment voulu travailler sur... Qui d'eux on accueille ? Qu'est-ce qu'on reçoit d'eux ? Des morceaux d'âme, tout ce qui hante leurs pensées, leur corps, leur regard. On reçoit d'eux, on accueille d'eux leur traumatisme, on accueille leur générosité, leur volonté de s'en sortir, leurs incompréhensions, leurs interrogations. Donc, au travers de chacune des actions, cours de français, les promenades à l'océan ou dans les Pyrénées, c'était qu'est-ce que d'eux on
reçoit. Vous recevez, voilà.
Voilà.
Et ils s'appellent Abel, Majou, Salil, Garonde, Rachad, Abdelaziz, Soliman, et il y en a d'autres.
J'ai changé leur nom.
Et vous avez... Oui, vous allez nous...
Oui.
J'allais vous le demander, c'est effectivement des noms qui ne sont pas... des prénoms qui ne sont pas les leurs, mais ça donne l'individualité contre l'invisibilité de ces hommes, finalement.
Oui.
On va se retrouver dans un instant et on va poursuivre la rencontre avec ces hommes que vous avez... auprès de qui vous avez été, pour ne pas dire accompagné, pour ne pas dire... J'ai le plaisir de recevoir Patricia Riffel et nous parlons de « Après Calais, respiration », c'est le titre de son ouvrage. Il est paru aux éditions La Chambre d'écho.
Ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
ورثيش ينا وغرم ذي تمرثيش غفلوا مورد تمسلتيش كل سد لي كونفيرانس كل سد لي كونفيرانس بوري تدي تولي صانس Vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a du sage, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. تتقابلن يرناس السوم رخيصن وقرنستي يد لاشونس وقرنستي يد لاشونس ميت سعيد لاريزيدونس Conversation, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois, ça recommence. يا قيم صبر في دمور ثازتنا ملامر ما يلي يلزم هالصافر أبزر للديفيرانس أبزر للديفيرانس ما يلولش للريزيدانس Travail quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. نخدم شي طوح في قان عزيزنا مروح ما يلي لسما غنروح الفوسي بير لي كونسيكونس الفوسي بير لي كونسيكونس يورا بلي دو ريمينونس ابري تو سانفرا دي بيان دو روتورني شي لي ميان جو سويس ان افريكان لو سولاي اون بيرمانونس Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. سنجد رحضي لا يطيج ديم كل تامور ذي تفجي ربي ذا حنني يتفرج يضمنا غم عيش دافانس يضمنا غم عيش دافانس جسكا لفن ديكزيستانس Avec une grande joie que je vais rentrer chez moi C'est normal chacun chez soi Souvenir de notre enfance Le Souvenir de notre enfance Avec toutes ses références Tu sais bien que la terre est ronde Le soleil est pour tout le monde Il brille à travers les hommes Grâce à la providence Grâce à la providence qui domine toutes les puissances. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous de ce matin. Je rappelle que je reçois Patricia Riffel et nous parlons de Après Calais, Respiration. C'est le titre de son ouvrage. Il est paru aux éditions La Chambre d'Écho. Extrait. Le jour de l'évacuation de Calais, le 24 octobre 2016, sur la carte de France mal photocopiée, que les forces de l'ordre avaient sorti à la va-vite du fond d'une poche pour que les migrants choisissent en moins de 30 secondes une destination qui ne serait pas l'Angleterre mais la France, rien que la France, les 12 hommes avaient pourtant posé le doigt sur la gommette verte, celle qui était collée près de l'Espagne et de l'océan. Ils s'en souviennent, le rond vert débordait même sur le bleu de l'eau. Peu importe finalement la ville où ils échouent, depuis hier, peu importe la mer ou non, le sud ou le nord de ce pays, pourvu que l'on y respire, que l'on puisse dormir sans avoir peur de se réveiller, dormir, même seul, et sans bras autour, pouvoir fermer les yeux, en paix, reprendre la vie au moins dans le sommeil, au moins rêver, même seul. Quand vous êtes arrivé auprès d'eux, pour le premier cours de français, il y avait tout de suite la volonté de ces hommes de vouloir apprendre la langue. C'était plus que nécessaire, c'était une urgence. Il fallait apprendre.
Ah oui, oui, complètement. D'ailleurs, je raconte dans le livre que nous les attendions. En fait, nous donnions toujours les cours de français à deux pour que nous soyons témoins l'un de l'autre. Nous attendions les migrants devant la salle de cours sur le trottoir et personne n'était là. Il était l'heure, on leur avait donné rendez-vous et personne n'était là. Et il faisait très froid, donc on s'est dit, bon, on va attendre à l'intérieur. Et en fait, ils étaient déjà tous arrivés en avance. Ils étaient déjà tous assis, serrés les uns contre les autres, et ils nous attendaient, prêts avec leurs stylos et leurs cahiers.
C'était cette soif que vous décrivez, cette soif d'apprendre la langue française pour être bien en France. C'était la première chose qu'ils attendaient, au-delà du papier, évidemment, mais des papiers, évidemment, mais c'était important pour eux.
Ah oui, oui, c'est important pour eux d'être indépendants dans notre pays, de continuer à faire ce qu'ils étaient capables de faire chez eux, c'est-à-dire acheter du pain, acheter de la nourriture, se déplacer dans l'espace, acheter des billets de train, eux-mêmes, comprendre eux-mêmes, lire eux-mêmes, et voilà, c'est une forme de liberté pour eux. Le français, c'est accéder à une autonomie et une liberté.
Il y en a même un qui va dire un peu plus loin dans le livre, quand il est question de faire une pause pendant le cours, non, pas de pause, il faut qu'on apprenne, faut qu'on apprenne vite, allez, on continue, quoi. Il y avait vraiment cette détermination. Je le souligne fermement parce que c'est souvent ça, les migrants. Le parcours des migrants, c'est aussi ceux qui racontent qu'il faut apprendre le français pour être autonome, comme vous le dites. Et on voit bien dans ces portraits d'hommes qu'il y a vraiment cette volonté-là.
Oui, oui, on essayait de rendre vivants les cours en faisant une pause café, tous ensemble. Et assez vite, ils nous ont demandé à plusieurs de ne plus faire la pause et d'enchaîner 2 heures de cours. Ensuite, on est passé à 3 heures pour apprendre le plus possible. Pour eux, c'était difficile, hein, de passer de l'arabe au français, de l'écriture de gauche à droite, pour la première fois de leur vie.
Puis de l'anglais au français aussi, parce qu'il y avait des anglophones aussi. Ouais. Et ce qui était difficile aussi, c'est... ce qui est intéressant, il y a à la fois le cours de français un peu classique, on va dire, que vous donnez dans la salle de cours, mais il y a l'importance aussi d'apprendre le français à l'extérieur. Quand vous allez au marché, il y a un passage magnifique sur le marché où il faut expliquer, on montre une orange, on montre un poisson, et voilà, il faut donner les mots de ce qu'on voit, le nom des fruits, le nom des poissons, enfin tout y est dans ça. Parce que la vie de ces hommes, elle peut pas être que sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur leur situation, l'attente des papiers, apprendre la langue, c'est une manière de s'ouvrir aussi à la société. Et c'est pas toujours facile, surtout sur le marché.
Ah oui, oui, complètement. Une fois, nous les avons emmenés dans un parc pour donner le cours dans le parc parce que la salle était fermée. C'était un jour férié et on voulait qu'ils sachent que même les jours fériés, on va les aider. Et on a commencé à nommer les arbres, les fleurs. Enfin, on a dit arbre, on a dit fleur, on a dit pierre, on a dit banc. Et à un moment donné, il y en a un qui nous a dit « Mais c'est pas assez tout ça, il nous en faut plus ». Arbre, c'est pas assez, je le dis dans le livre. C'est quel arbre ?
Le chêne, l'être.
Et alors, on s'est trouvé un peu bête, c'est-à-dire de leur donner le minimum. Ils voulaient plus, ils voulaient connaître le nom des arbres et le nom des fleurs. Et ça nous a
enchanté. Une belle exigence.
Oui. Ouais, ouais.
Et vous poursuivez toujours dans votre livre à la fois cette attention que vous avez vous-même et l'équipe de bénévoles, bien sûr, auprès d'eux. Et puis, vous êtes, on disait tout au début, ils ne vont pas raconter leur vie. C'est difficile de raconter la souffrance. Elle ne se raconte pas. Elle se voit parce qu'il y a des hommes qui sont mutilés et qui un jour vont soulever leur t-shirt et vous allez voir la torture dans le dos. Mais voilà, rien n'est dit, c'est vu. Et ça vous bouleverse.
Oui, on nous avait dit de ne pas les questionner. Ça, c'était très important.
C'est la CADA qui vous disait ça?
Oui, le CADA. On nous avait expliqué que s'ils veulent parler, s'ils ont besoin de parler, il faut les laisser faire, mais ne pas poser plus de questions. Et c'est très, très rare quand ils se sont livrés. Vraiment, ils sont rentrés à l'intérieur complètement. Ce qu'ils nous disent, ils parlent de futur, ils parlent d'un instant présent, mais on sait très peu de choses de leur famille.
Il y a des bribes de leur famille, mais sur leur vie à eux, il y a des bribes quand même.
Des bribes qui sortent.
Qui sortent. Hein.
Et, ou alors des moments à vif qui sortent, ou des moments durs, des larmes sortent. Et c'est comme ça que j'ai voulu écrire le livre, utiliser des mots qui explosent, parce que tout d'un coup, quelqu'un explose en disant quelque chose, en livrant quelque chose de son passé, soit en mettant des tremblements, en essayant de percevoir leurs vibrations ou des souffrances intérieures ou des absences de sommeil. Voilà, j'ai utilisé des mots qui disent leur joie contenue, la douleur de la joie qui n'arrive pas forcément à sortir et tout ce qui est rentré à l'intérieur, tous les fantômes qu'ils contiennent, qu'ils portent avec eux, les fantômes de leur passif, de leur famille et des disparus qu'ils portent avec eux.
Et Sadek, quand vous partez en voiture en montagne dans les Pyrénées, il hurle dans le vide.
Ah oui.
Il a la rage, on ne sait pas trop ce qu'il a. Enfin, il a la rage, il a la faim, il y a tout ce qu'il porte en dedans qui ressort. Et du coup, tous les autres font pareil.
Oui.
Tous se mettent à hurler.
Ah là là, la montagne a tremblé. Rien que de vous en parler, j'en ai la chair de poule. Ils sont sortis de voiture, nous sommes arrivés au sommet du col. Et la première chose qu'ils ont faite, ils se sont précipités au bord du vide. Et l'un d'eux s'est mis à crier pour expulser quelque chose. Et les autres ont suivi. Et ça a été un cri à la fois de délivrance, de souffrance et, je dirais, d'une victoire aussi.
D'une victoire du fait qu'ils étaient arrivés là. Et dans cette montagne, dans ce même passage, rapidement, il y a des cyclistes qui montent la montagne et un dit, oh là, ils sont courageux, c'est magnifique ce qu'ils font, et vous leur répondez
vous aussi vous êtes magnifique et vous êtes plus fort qu'eux, et eux nous répondent mais on n'est pas aussi fort, on est monté en voiture, ils sont tous montés à vélo et je leur dis oui mais vous n'êtes pas partis d'en bas, mais d'où alors, ils me disent, vous êtes partis du Soudan.
Voilà. Donc c'était une belle réponse à effectivement le courage qu'ils avaient. On vous retrouve dans un instant. Patricia Riffel, Après Calais, c'est le titre de votre ouvrage, il vient de paraître aux éditions La Chambre d'écho.
Ce qu'ils en font de l'assiette est si petit, qu'on leur dit pas, tu leur dis pas bon appétit. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent, qu'ils boivent et qu'ils gardent pour eux, vu que tout est dit au fond d'eux. Une cuillère, un tabouret, un rideau, rien de coloré. C'est qu'on fait pas dans la couleur quand t'as vécu dans la douleur. Souvenirs.
souvenir si flou, qui les accroche avec des clous. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Ils sont dans les livres d'histoire comme nous dans une passoire. Comme un oiseau perdu au gré du vent qui veut pas de regret. Ils vont et viennent à la merci d'un casse-toi ou de merci.
Sans cérémonie, ce sont les vieux, nos anciens, ce sont les deux réunis, ceux qui nous laissent démunis le soir quand on se réveille. Si qu'on a oublié la compagnie des Chimani,
Chimani,
qu'il soit fils ou qu'il soit parent. Ils meurent une fois par an. À chaque fois qu'une naissance marque d'une croix leur absence. À chaque fois qu'une naissance marque leur absence, ils en écrivent des phrases et ça efface pas l'ardoise. Crois pas qu'ils s'endorment, ils s'éteignent après un petit coup de peine et tranquillement disparaissent dans l'attente d'une caresse.
Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Toujours au rendez-vous de ce Voix au chapitre ce dimanche matin, Patricia Riffel est l'invitée. Après qu'il y a la respiration, c'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions La Chambre d'écho. Nouvel extrait. Majoub est assis dans la salle du fond, au deuxième étage de la médiathèque. Il est occupé à recopier les passages d'un livre dans son cahier, probablement sans comprendre ce qu'il est en train d'écrire. Les mots appris en classe se perdent dans les phrases et ne ressemblent plus à rien. C'est à peine s'il les reconnaît. C'est peut-être la même chose avec les humains. Perte ou gain de sens au milieu des autres. Perte ou gain d'identité. Peu importe ce que raconte ce livre, Majoub s'en sert pour s'entraîner à écrire. Ainsi, il passe ses samedis après-midi, recopier un livre, essayer d'oublier qu'il ne fait plus jour depuis des mois et qu'il ne voit pas plus loin que la pointe de son stylo. Se prouver qu'il est capable d'écrire l'obscurité et d'apparaître dans le noir. Voilà, pour poursuivre sur ce que nous disions, Patricia Riffel, avant la pause musicale, sur le fait que ces hommes avaient un besoin d'écrire, un besoin de parler le français. Il est aussi question dans ce livre d'une certaine gravité, je vais le dire, du traitement administratif qu'on fait à ces hommes qui sont en attente d'obtenir leur titre de séjour. Accident de parcours. On le nomme comme ça, cet accident de parcours, c'est ce que va dire à un homme qui va chercher ses papiers, ou en tout cas être en demande de papiers. Expliquez-nous un peu comment ça s'est opéré, le fait qu'un homme vous revienne vers vous et vous dise, ça veut dire quoi, accident de parcours? Dites-nous.
Oui, donc les migrants devaient préparer leur curriculum vitae. Et une personne de l'administration qui les encadre a mis en face de 2014-2016 accident de parcours. Et lorsque ce réfugié est venu me voir, il me montre la faille et il me dit « Qu'est-ce que ça veut dire accident de parcours ? Pourquoi elle a mis accident de parcours sur mon CV ?» Et je me rends compte que 2014-2016, c'est l'exil. C'est son départ du Soudan jusqu'à Calais. On appelle ça accident de parcours pour faire bien dans un CV apparemment. Alors que la force que doivent déployer ces hommes, le courage qu'elles doivent déployer, physique et mental, pendant 2 années pour arriver chez nous, pour moi, un accident de parcours, c'est vraiment réduire en miettes ce périple. Et voilà, là, je me suis mise en colère.
Voilà, j'allais justement vous demander si vous étiez en colère en écrivant ce que vous avez écrit dans le livre. Et je vais vraiment m'empresser de lire ce que vous dites là. Vous vous adressez à l'administration française. Madame, monsieur, l'administration française, mesdames, messieurs, les ressources humaines. Si vous aviez pris le temps d'observer attentivement le trou dans la feuille en face de 2014-2016, vous auriez vu que c'est ni un trou, ni un accident de parcours. Vous auriez vu, madame, monsieur, ce qu'était la vie de ce qu'était ce saut dans l'inconnu et que la faculté qui va avec, ça s'appelle le courage. Et si vous aviez un peu plus d'ouverture d'esprit, vous sauriez qu'il existe plusieurs manières de sauter, plus exactement, plusieurs manières d'en être capable. Cela, madame, monsieur, il n'est pas difficile à reconnaître. Regardez le trou dans la feuille, vous voyez bien qu'il s'agit d'un exil. Vous voyez bien que celui qui a sauté est un migrant. Alors pourquoi ne pas écrire la vérité en face, 2014-2016 ? C'est déjà une qualité que d'oser marquer cet exil. À moins qu'exil ou migrant, ce ne soit pas assez précis pour vous dans un curriculum vitae. Cela voudrait dire que vous êtes mal informé quant à la vie sur Terre, qu'une partie des faits et gestes de centaines de milliers d'humains vous échappent, que vous n'avez pas la moindre idée de ce qui suppose, en termes de savoir-faire et de compétences, le fait de se sauver la vie. Où mettez-vous la bravoure dans nos CV, madame, messieurs, des ressources humaines ? Migrant, migrante, celui ou celle qui migre, qui a la force, la volonté, le courage de sauter par-dessus bord, de nager sans savoir, de marcher sans chaussures, d'une vie à une autre. Migrant, migrante, celui ou celle qui a survécu à la tyrannie, à la noyade, à la haine, à la torture, à l'esclavage, à la faim, à l'injustice, au coup dans les reins, à la mort des siens, à l'absence de lumière. Migrant, migrante, celui ou celle qui a dépassé sa peur, homme ou femme d'une immense capacité de résistance, parfois surhumaine, personne qui suscite l'admiration. Merci beaucoup pour tout ce que vous écrivez là, madame.
Merci de m'avoir reçu.
On va poursuivre, parce qu'il y a encore des choses à dire, même avec émotion, sur effectivement la peinture. C'est joli aussi, c'est la poésie, la peinture. Vous les avez conduits dans un musée, je crois, ou en tout cas face à des images de tableaux. Et il y a une très très belle description des tableaux, ils ont tout vu dans l'œuvre. Ça a été un moment un peu d'évasion, d'apaisement aussi pour eux.
Oui, disons que les cours de français, nous ne voulions pas seulement leur procurer du vocabulaire pour s'intégrer. Ça, c'était le plus important, évidemment. Mais nous voulions aussi les tirer vers le haut, leur montrer l'art en France et leur permettre, eux, d'en parler. En se rendant compte qu'ils sont capables d'en parler avec un tout petit peu de mots, et sans savoir, sans aucune connaissance. Et ça a été une découverte pour eux, d'être capable de ça.
En tout cas, c'est un très beau passage où vous décrivez, où sont décrits des tableaux de peintres, il y a Van Gogh.
Il y a Cézanne.
Cézanne aussi.
Il y a Caillebotte et Bruegel.
Voilà. On va bientôt se quitter. On aurait encore longtemps à vous entendre parce que vous parlez avec émotion aussi de même s'il y avait eu de la colère dans ce que je viens de lire et qui était effectivement cette dénonciation de comment sont traités les migrants. Et c'est important de le rappeler. Mais que sont-ils devenus ces hommes? Vous les avez retrouvés parce qu'on est en 2016 et quelques années plus tard. Alors certains ont eu leur titre de séjour. Un ne l'a pas eu, a été recalé, on va dire comme ça. Et vous les avez revus ?
Alors, moi, je n'habite plus Pau, donc j'ai plus la possibilité d'en croiser certains dans la ville. Mais à distance, j'ai gardé vraiment un contact très régulier avec 4 ou 5 d'entre eux. Alors, deux sont restés à Pau. Il y en a un qui vraiment se brouille très très bien. Très vite, dès qu'il a eu son titre de séjour, il a été engagé dans les travaux publics. à bosser comme un fou. Et en plus de ses heures de travail, il livrait des repas à emporter. Donc, c'était pas suffisant, quoi. Donc, vraiment... et maintenant, je sais qu'il est en train de faire une formation de grutier. Il est plein d'ambition, ce garçon. Le deuxième a suivi une formation de chaudronnier pour apprendre à faire donc différents types de pièces. Je suis vraiment en contact avec lui. Il m'a raconté quelque chose d'assez difficile à recevoir lors d'une de ses expériences professionnelles, puisqu'il a réussi à être engagé en tant que chaudronnier. Ses collègues d'atelier lui ont reproché, donc des Français, lui ont reproché de trop travailler, de ne pas faire de pause café et de ne pas faire durer les pauses café. Et lui, il me dit, mais moi je suis venu en France pour travailler, j'ai pas le temps pour parler, je dois faire mes preuves, je dois montrer que je suis capable.
C'est souvent comme ça, d'ailleurs on attend d'eux qu'ils en fassent le double. Un mot sur vous, Patricia Riffel, qu'est-ce qui reste en vous de ces rencontres avec ces hommes? Parce que c'est dans les deux sens que ça se passe.
Oui, ça a été difficile quand j'ai parlé du mot accueillir, qui on accueille, mais qui de moi accueille? Quelle personne j'ai été avec eux? J'ai été à tour de rôle une mère, une amie, et maintenant je suis surtout une grande sœur. J'ai découvert que j'étais une grande sœur et c'est une grande découverte. Ce que je voudrais dire, c'est que l'hospitalité grandit les hommes, ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis.
Ce sont les mots de la fin. Merci infiniment. Merci de votre livre, Patricia Riffel, Après Calais, Respiration. C'est le sous-titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions La Chambre d'écho et il fait beaucoup de bien. Merci infiniment.
Merci.
Au revoir à tous, au revoir à toutes. Au revoir Patricia Riffel. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de vos chapitres. D'ici là, portez-vous bien.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. France, cher pays de mon enfance,
bercé de tant d'insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur, douce France. Douce France.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.